Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Effondrement d'un immeuble en chantier hier au quartier Bankoko à Bunia. Bilan provisoire, 2 morts, 2 blessés et 20 d'ouvriers coincés sous les décombres. La MONUSCO et d'autres partenaires du gouvernement provincial s'activent à sauver des vies humaines. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était devant les élus du peuple hier à l'Assemblée nationale. Il répondait à une question orale avec débat lui adressé sur notamment les arrestations arbitraires et les tracasseries policières. Entre-temps, 2 commissions sont créées pour statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre Constant Mutamba. Et puis, il n'y a pas d'eau potable depuis plusieurs mois dans plusieurs pavillons de l'hôpital provincial de Kinkanda à Matadi. La régie des eaux dit avoir émis à l'hôpital un devis pour les travaux, mais aucune réaction jusqu'ici. Théodore Socrate Kabeangandou, directeur régional de la régie des eaux Congo Central, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Drame à Bunia, en Ituri. 20 d'ouvriers, composés notamment des élèves en stage, sont coincés sous les décombres d'un immeuble à 3 étages en chantier. L'immeuble s'est effondré hier jeudi au quartier Bankoko. Parmi les victimes, 5 sont sorties vivantes et acheminées à l'hôpital, mais 2 autres sont mortes, affirment des sources concordantes. La MONUSCO et d'autres partenaires du gouvernement provincial de l'Ituri ont mobilisé leur arsenal pour sauver des vies. Isaac Remoyope nous relate les faits.
Les drames s'est produit jeudi dans l'après-midi pendant que des maçons, des soudeurs, des électriciens et même des élèves stagiaires en électricité effectuaient les travaux de finissage de ces bâtiments à 3 niveaux. Soudain, l'édifice s'est écroulé pour des raisons non encore élucidées. Certaines autorités, dont les maires de la ville, se sont déployées sur place pour mobiliser les ressources ainsi que des moyens logistiques pour sauver des vies en détresse. Des casques bleus népalais, indonésiens, sénégalais ainsi que des policiers de la MONUSCO sont à pied d'œuvre depuis jeudi après-midi aux côtés des équipes de secours avec 4 ambulances pour tenter de retrouver des survivants. Au moins 6 personnes sont déjà sorties vivantes, fracturées ou blessées et sont admises aux soins d'un district sanitaire local. Pour l'instant, il y a 2 morts. D'autres personnes, dont le nombre n'est pas encore déterminé avec précision, sont encore coincées sous les décombres. Selon un rescapé, ils étaient au total 30 ouvriers, dont 7 élèves. Les recherches se poursuivent pour extraire d'autres survivants. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Par ailleurs, le collectif des syndicats des affaires foncières soutient les réformes engagées par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour assainir ce secteur engrainé par des conflits et des constructions anarchiques. Dans une déclaration jeudi au Palais du Peuple, ce collectif salue la clarté et la pertinence de la réponse de la ministre Acacia Bandoubola sur sa détermination à rétablir l'autorité de l'État dans le secteur foncier congolais. Pour ce collectif, les réformes amorcées par la ministre sont susceptibles de faire du sol congolais un véritable levier de développement en lieu et place d'un facteur des conflits et de précarité. Le rapporteur du collectif des syndicats des affaires foncières, Léon Bakaka, s'exprime au micro de Michel Kifindangoy.
Nous saluons les réformes courageuses prises pour mettre fin aux pratiques contraires à la loi foncière, telles que la déclaration abusive des biens sans maître, les morcellements anarchiques et les attributions irrégulières des concessions. Nous saluons la volonté de promouvoir une gouvernance foncière saine, équitable et orientée vers le développement durable. Nous réaffirmons notre détermination à accompagner les efforts des réformes engagées et à travailler aux côtés de Madame la ministre pour la matérialisation des objectifs stratégiques du gouvernement en matière foncière. Considérant que la protection des populations et la préservation de l'environnement urbain sont des priorités non négociables, nous demandons à la population d'éviter d'acheter et de construire n'importe où. Nous invitons tous les agents du secteur, les partenaires techniques et les citoyens à soutenir cette dynamique qui vise à faire le sol un véritable levier de développement en lieu et place d'un facteur de conflit et de précarité.
Je vous l'ai dit dans les titres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Chabani, a été auditionné hier jeudi à l'Assemblée nationale au sujet des arrestations arbitraires, tracasseries policières et la présence des éléments fictifs dans la police à travers le pays. Il répondait à la question orale avec débat lui adressé par le député Eangamboyo Venance, qui s'est dit préoccupé par les bavures des éléments de la police. D'autres détails avec Grâce Amzati.
Parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires, l'élu de Moamba s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, causée également par les agents de la police. Et Eangamboyo Venance.
Ces agissements de la part de ceux qui pourtant sont commis à la protection des citoyens et de leurs biens aggravent la situation et ternissent davantage l'image de notre État et de nos institutions, mais aussi de l'État des droits que nous aspirons à consolider.
En réponse, le ministre de l'Intérieur rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Pour Jacquemain Chabani, le projet de loi portant réforme de la police est une réponse aux questions posées.
En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population, à opérer des opérations arbitraires et à violer les droits et libertés fondamentaux des citoyens.
Au cours du débat, une quarantaine de députés se sont étalés sur d'autres cas d'insécurité, notamment à Lubumbashi et à Boma. Le conflit des chefs coutumiers dans les provinces, les phénomènes Kuluna à Kinshasa et Mobondo au sud-ouest du pays, ainsi que des braquages. Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus nationaux, Jacquemain Chabani a sollicité un délai de 48 heures qui lui a été accordé.
Signalons qu'au cours de cette plénière de jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a informé les élus nationaux de la création des deux commissions pour statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Entre-temps, au Nord Kivu, un acteur politique plaide en faveur du renforcement de la cohabitation civilo-militaire dans le territoire de Lubero et la ville de Butembo. Le député honoraire élu de Lubero fait cette déclaration en réaction à la 98e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le Sénat a voté cette prorogation mardi 20 mai pour une nouvelle durée de 15 jours à partir du 21 mai 2025. Eze Kanendu estime qu'au moment où la sécurité se dégrade, notamment dans la ville de Butembo, et dans le territoire de Lubero, les cadres territoriaux civils nommés il y a quelques mois à la tête des dites entités devraient progressivement prendre leurs fonctions pour tenter d'améliorer la relation civilo-militaire, suivant les propos d'Eze Kanendu, député honoraire de Lubero.
Nous sollicitons l'allègement graduel des mesures d'application de l'état de siège proclamé dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège, les maires et les maires adjoints ont été nommés pour diriger les villes et au niveau des territoires, les administrateurs et les administrateurs assistants. Pour la ville de Butembo et le territoire de Lubero actuellement, les défis sécuritaires et le développement de ces entités appellent la conjugaison d'efforts entre les dirigeants, mais aussi la cohabitation pacifique entre civils et militaires en vue de renforcer les mariages civilo-militaires. C'est pourquoi, en attendant la levée définitive de l'état de siège, il plaise au ministre de l'Intérieur de réhabiliter parmi les maires et les administrateurs nommés dont l'ordonnance a été mise à veiller en vue de renforcer cette cohabitation, surtout la sécurité étant une affaire de tous.
Province du Maniema, le gouverneur Moussa Kabwankubi a présenté hier aux élus du peuple le rapport d'activité du gouvernement provincial pour l'exercice 2024. Ces activités sont contenues dans son programme d'action pour 5 mois de gestion. Bien qu'il y ait des choses à améliorer, dit-il, le chef de l'exécutif provincial se félicite de quelques actions réalisées avec le concours de l'Assemblée provinciale et de la population locale. Florence Kiza nous en parle.
Dans son rapport, le gouverneur du Maniema affirme avoir obtenu des résultats dans presque tous les secteurs, dès la sécurité passant par la santé, l'éducation et les infrastructures. Cependant, Moussa Kabwankubi évoque également les difficultés rencontrées.
C'est d'abord la mise en place des taxes conventionnelles, parce que la culture fiscale n'existe pas et il a fallu beaucoup de temps pour mettre en place ces taxes conventionnelles. Et nous devons avouer que sans ces taxes conventionnelles-là, aujourd'hui, nous n'aurions pas des bilans à proposer.
L'Assemblée provinciale encourage les gouverneurs à continuer dans ce sens de poser des actions concrètes. Papi Omeonga Chopa, le rapporteur.
Le gouverneur de province a présenté son rapport par rapport aux différents actes et conformément à son programme d'action qu'il avait présenté. Et nous avons trouvé qu'il y a quand même des avancées, bien qu'il y ait des difficultés notamment liées à l'appui financier.
La société civile Force Vive du Maniema, qui dit se réjouir, promet son accompagnement au chef de l'exécutif provincial, Maître Stéphane Kamundala.
C'est un exercice qui n'a jamais existé ici chez nous, mais il vient avec une nouvelle méthodologie de la gestion. Nous pensons que s'il continue ainsi, dans cette transparence de la gestion, il aura toujours l'accompagnement de la société civile.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction la province du Haut-Uele, à plus ou moins une semaine de la fin de l'ultimatum accordé au Mbororo par l'état-major opérationnel des FARDC basé à Dungu. Deux grands mouvements de ces éleveurs étrangers sont actuellement observés dans la région, notamment du côté du territoire de Faradje. Le premier part du nord vers le sud, c'est-à-dire de Faradje vers la frontière avec le Sud-Soudan. En revanche, la seconde vague prend la direction du territoire de Ouattara. La synergie des organisations de la société civile de Faradje s'en réjouit. Cependant, elle demande aux autorités de prendre des mesures d'encadrement pour un aboutissement heureux de ce processus. Jacques Moukonkole nous fait le point.
Cet ultimatum accordé au Mbororo depuis le 10 mai dernier court jusqu'au 1er juin prochain, alors que ces éleveurs ont commencé les mouvements vers leur lieu de cantonnement à Nyangara. La population les en empêche au motif qu'à leur passage, leurs troupeaux dévastent les champs. L'administrateur de territoire assistant de Faradje, Benjamin Abiandro, en appelle au bon sens de tous.
Après de partir, nous sommes très contents que la population les laisse partir parce que nous qui cultivons les champs, nous vivons des champs. Depuis que le monde a existé, il n'y a aucune bonne ressource de vivre entre les éleveurs et les agriculteurs.
La synergie des organisations de la société civile de Faradje qualifie la décision des autorités militaires de salutaire. Jean-Claude Malitano, coordinateur de cette structure citoyenne, leur demande d'envisager des mesures idoines pour l'encadrement de ces mouvements.
Nous demandons à nos autorités d'organiser une rencontre qui va réunir toutes les parties prenantes à ce processus pour essayer d'analyser, mettre sur pied des mécanismes qui vont faire aboutir cette décision.
La société civile espère par ailleurs qu'au terme de leur identification, le statut de ces éleveurs Mbororo au pays sera clairement précisé, puisque, souligne-t-elle, ils sont considérés tantôt comme des réfugiés climatiques, tantôt comme des émigrés ou encore des demandeurs d'asile. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le comité international de la Croix-Rouge CCR vole au secours du centre hospitalier de Kacheke dans la zone de santé de Calais en médicaments. Nous sommes bien au sud Kivu. Ces lots de médicaments, c'est pour soigner des malades dont la plupart sont des déplacés et des blessés de guerre. C'est dans ce territoire de la partie nord du sud Kivu que les affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo se déroulent régulièrement. Détail avec Alain Rongmouchinj.
Ce lot de médicaments offerts au centre hospitalier de Kacheke par le CICR est une réponse aux besoins en soins de santé dans cette institution qui n'était plus en mesure de renouveler son stock en produits pharmaceutiques. Son médecin directeur, Bahati Benjamin.
Il y a 4 ans, nous avons travaillé avec le CICR. Maintenant qu'ils ont trouvé mieux des engagements, ils ont préféré nous donner en plus ces médicaments qui va nous aider à couvrir les 2 mois ou les 3 mois qui vont venir. Il y a un problème lié aux médicaments, un problème lié à l'approvisionnement. Et cette donation vient de tomber à point nommé parce que nous étions dans une difficulté notoire d'approvisionnement.
Les déplacés internes et externes présents dans l'aire de santé bénéficiaire de la dotation du CICR seront pris en charge. Pacifique Chiraluira, chef de zone de santé rurale de Calais.
Il y a des déplacés internes, mais aussi les déplacés externes. Ces déplacés-là auront quand même accès aux soins avec les médicaments qui viennent d'être approvisionnés dans l'aire de santé de Kacheke et précisément au centre hospitalier de Kacheke.
Deux autres institutions, Ramba et Chigoma, bénéficient également de l'appui du CICR pour soigner gratuitement les personnes victimes des conflits à Calais.
Retournons en Ituri. Les violences sexuelles dans le milieu scolaire sont de plus en plus récurrentes, notamment à Bunia, chef-lieu de la province. C'est le constat de U-Report, un mouvement des jeunes bénévoles actifs dans la sensibilisation et la promotion de l'éducation. Il a organisé hier une journée de sensibilisation à ce sujet avec l'appui de l'UNICEF. L'objectif est de lutter contre ce phénomène et promouvoir l'excellence scolaire et l'esprit de compétition positive entre les établissements scolaires de la ville de Bunia. Reportage de Niclette Kodiango.
de 200 élèves venus de différentes écoles de la ville de Bounia ont participé à cette séance de sensibilisation contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Selon Yuri Pot, qui est une plateforme de jeunes bénévoles encadrée par l'UNICEF pour la promotion de l'éducation, cette pratique prend de proportions inquiétantes et les filles en sont les principales victimes. Ambogo Baraka, élève du 4e commercial au complexe scolaire Léopold, s'engage à briser le silence pour dénoncer les auteurs de ces fléaux.
Il y a les profs qui les intimident, ils disent si tu ne te donnes pas à moi, si tu ne couches pas avec moi, donc tu ne dois pas réussir, tu ne monteras pas dans la classe supérieure. Et les filles aussi se laissent faire, elles vont rester silencieuses. Du coup, ça le tue intérieurement. Donc les filles, elles doivent dénoncer, elles doivent parler.
Innocent Pitapita Kayumba, élève du 4e technique sociale au complexe scolaire Lodja, encourage les élèves à s'impliquer dans cette lutte en vue d'éradiquer ces violences en milieu scolaire.
Qu'ils ne se laissent pas intimider par ces enseignants. S'il y a un cas pareil, qu'ils partent vite dénoncer cela.
Plusieurs activités, dont des jeux concours et matchs de football, sont prévues dans le cadre de cette sensibilisation. Bounia, Niklet Kodiango, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe, fait face à un ultimatum, celui de la raréfaction des ressources. Comment nourrir 113 millions d'habitants alors que l'eau et les terres cultivables pourraient venir à manquer? Le Nil, seule ressource en eau dont dispose le pays, est en stress hydrique. L'État a décidé d'aller à la conquête des nappes phréatiques dans l'immensité du Sahara et incite les familles à faire moins d'enfants, mais ces solutions semblent limitées.
L'invité.
Nous sommes à Matadi, au Congo central. L'eau potable ne coule plus des robinets de plusieurs pavillons au sein de l'hôpital provincial de Kinkanda. Et cela dure depuis plusieurs mois. Cet hôpital a reçu depuis le mois de mars dernier le devis élaboré par la régie des eaux pour décanter cette situation. Mais jusqu'ici, aucune réaction. C'est ce qu'a dit Théodore Socrate Kabeangandou, directeur régional de la régie des eaux Congo central. Il est notre invité et s'entretient avec Nana Pluriche Mambou.
Monsieur Théodore Kabeangandou, bonjour.
Bonjour Madame Pluriche.
L'hôpital provincial de Kinkanda a fait plus de 6 mois sans recevoir l'eau de la régie des eaux. Depuis quand et de quelle manière avez-vous reçu cette information?
Merci Madame. La situation de la perturbation de la desserte à l'hôpital de Kinkanda ne peut pas être assimilée à un manque d'eau totale dans l'hôpital. C'est plutôt une partie des pavillons de l'hôpital qui n'ont pas d'eau. Et ça a été porté à notre connaissance au mois de mars. Nous sommes descendus sur le terrain pour vérifier. Nous trouvons que notre eau arrive jusqu'à l'entrée, là où s'arrête notre responsabilité à l'hôpital. Et que certaines parties de l'hôpital, notamment le côté occupé par l'OMS, a de l'eau régulièrement. Mais il se fait que dans certains pavillons de l'hôpital, il y a un problème d'eau dû à la situation des installations intérieures dont les canalisations pour certaines sont bouchées, d'autres très vétustes et d'autres sous-dimensionnées. Et que, après l'expertise qui a été demandée par l'hôpital, parce que l'hôpital nous avait écrit depuis le 13 mars demandant notre expertise, d'après l'expertise, on a trouvé que le plombier de l'hôpital avait même isolé certains pavillons pour faire face à la situation là-bas qui s'est créée par rapport aux canalisations sous-dimensionnées ou bouchées. Et notre expertise sollicitée a fait son travail et le 20 mars, nous avons dressé un devis que nous avons transmis à l'hôpital pour que si on mettait à l'intérieur de la régie des eaux ces moyens-là, que l'on puisse chercher à remettre le réseau normal suivant notre expertise pour que chaque fois qu'il y a l'approvisionnement de l'hôpital, que tout le monde ait de l'eau. Donc ce n'est pas un problème de manque total de l'eau à Kinkanda, comme on dit 6 mois, non. L'eau arrive à Kinkanda, mais il y a certains pavillons de Kinkanda qui ne sont pas alimentés, mais ça c'est le travail intérieur. Donc ce n'est pas la responsabilité de la régie des eaux.
Et depuis que vous avez remis les devis à l'hôpital, est-ce qu'ils ont déjà réagi?
C'est un problème d'abord de santé publique, comme on dit. Tout le monde ici est saisi, même les autorités politiques administratives sont au courant. Nous avons même été contactés par la mairie de la ville pour nous demander si on avait déjà transmis le devis. Et nous avions confirmé et nous avions encore transmis sur base d'une lettre. Et là, nous attendons finalement que l'on puisse mettre en disposition de l'argent. Nous n'avons pas encore reçu un appel ou quoi ça pour dire que l'argent est là. Mais du moins, le devis a été déposé. Il n'y a pas encore eu de réaction. Comme je vous dis, c'est depuis le 20 mars 2025.
Et vous, en tant que responsable de la régie des eaux, savez-vous l'impact du manque d'eau dans une structure médicale aussi importante que Kinkanda?
Oui, nous, nous savons qu'à l'hôpital, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est comme ça que nous nous sommes empressés à apporter notre expertise. Et on a amené l'expertise pour qu'ils mettent à notre disposition les moyens pour pouvoir les aider. Nous avons présenté une devise, comme je vous dis, qui a deux options. La première option, c'est la réhabilitation des canalisations vétustes. Ça s'élève à $12,000. Bon, le chiffre exact, c'est $12,711. Il y a aussi possibilité de leur construire un réservoir de 50 mètres cubes. Donc, si nous prenons cette deuxième option là-bas, et de faire la canalisation et construire le réservoir, ça amène à $56,711. Donc, il y a deux options. À eux de pouvoir dire quelle est l'option la plus rapide pour que nous puissions travailler.
Vous savez, cette situation de manque d'eau dans l'hôpital a provoqué un tollé au niveau des réseaux sociaux. À ce niveau, quel message pouvez-vous lancer à la population des Matadi, spécialement à ceux qui se disent communicateurs au niveau de la province?
Quand on se déclare communicateur, il faut chercher l'information et la vraie pour la diffuser. Nous avons vu une vidéo des réseaux sociaux où quelqu'un s'en prend à la haute hiérarchie de la gestion, notamment au DG, d'habitude, pour dire que ici, la population de Matadi demande ce qui se passe, qu'on n'arrive pas à donner de l'eau. Non. Le problème est cerné localement, on le connaît, et les autorités nous avaient contactés, c'est quand tout ça avait circulé. Nous nous sommes dit non, nous avons été sur le terrain, voilà ce que nous avons fait comme travail, nous attendons les financements. La population doit faire confiance à la gestion qui se bat nuit et jour pour pouvoir amener de l'eau. Alors, s'il y a un problème de manque d'eau dans certains pavillons, ici, il faudrait peut-être recourir aux responsables de l'hôpital qui connaissent la chose, à partir du médecin directeur. Et nous attendons tous ce financement. Donc, le problème, ce n'est pas la régie des eaux, c'est le financement pour que la régie fasse son travail. Parce que nous savons que Kinkanda, c'est une structure médicale. Il y a aussi CRC propre qui peut aussi faire face à ça. Parce que nous tous ici, on envoie les malades là-bas, nous payons nos factures. Donc nous nous sommes adressés à Kinkanda. Si Kinkanda cherche l'appui des autorités, que les autorités puissent peut-être aider Kinkanda. Mais sinon, nous, nous voyons la structure qui nous envoie des factures, nous nous payons, c'est comme tous les autres malades.
Merci.
Merci, madame.
Voilà, c'était là le directeur régional de la Régie des eaux Congo Central qui répondait aux questions de Nana Plurich Mambou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.